paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, à la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production. Mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout cela parce que on défend l'agriculture de type capitaliste.
Un paysan, son but, c'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Les paysannes et paysans dans la lutte des classes.
Bonsoir et bienvenue dans Les paysannes et paysans dans la lutte des classes sur Radio Canu sur le 102.2. Du coup, c'est l'émission sur l'agriculture et les luttes paysannes. Aujourd'hui, on va parler d'histoire des luttes paysannes en France. Enfin, on va essayer de commencer à défricher un peu tout ça, parce que c'est complexe, il se passe plein de choses. Du coup, on va parler surtout un peu de depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aux années 80. Donc on avait dit dans la première émission que le nom de cette émission était issu d'un livre écrit par un paysan, Bernard Lambert, en 70, en Loire-Atlantique, et qu'on réexpliquerait un peu pourquoi ça s'appelait comme ça, pourquoi la lutte des classes et tout ça. Donc on va essayer de commencer un peu aujourd'hui. Ce sera peut-être un petit peu approximatif et incomplet, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir, et puis aussi de détailler tout ça avec les récits de celles et ceux qui ont participé à ces années-là et qui ont vécu ces luttes. Voilà, donc on va aller doucement. On va d'abord brièvement aborder ce qui s'est passé un peu avant et après la Seconde Guerre mondiale dans les campagnes, jusque dans les années 70. Et ensuite, c'est dans ces années 70 qu'il y a eu justement l'émergence d'idées et de mobilisations qui ont constitué un peu un tournant dans les luttes paysannes. Donc on va lire un peu des textes de l'époque et puis écouter un extrait d'entretien avec un paysan qui a vécu cette période-là au Pays Basque. Voilà, et puis après, ben, on redonnera quelques références sur le sujet, il y en a pas mal. Et puis, il y aura un petit peu d'agenda et de musique aussi. Voilà. Alors, du coup, pour commencer, donc avant la guerre, on va pas trop détailler. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des luttes paysannes depuis de tout temps, en fait, dans les siècles derniers. Donc déjà cris, des révoltes pour la terre, plein de choses. Mais par contre... simplement, dans d'autres pays, il y a eu des implications paysannes plus fortes que d'autres, dans des révolutions dans la première moitié du XXe, par exemple dans la révolution mexicaine en 1910, et puis dans la révolution espagnole des années 30. Et en France, en fait, l'idée qui dominait à cette époque-là, et on verra qu'elle domine encore après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'idée d'une unité de la paysannerie. Donc, comme si la paysannerie était un peu une corporation unie et soudée, notamment autour de la notion d'agrarisme. Donc l'idée, ce serait qu'il y ait des populations paysannes rassemblées derrière leurs dirigeants, qui étaient à l'époque des notables et des bourgeois, et sans voir qu'il y ait des rapports de pouvoir au sein de ces populations paysannes. Donc en fait, cette idée est plutôt un peu faussée, quand on regarde donc toutes les luttes qu'il y a pu avoir justement à toute époque. Et puis, on peut citer aussi au niveau des organisations, entre deux guerres, il y a eu des mouvements et des syndicats paysans aux idées politiques bien distinctes. Il y en a eu à l'extrême droite, comme les chemises vertes de Dorgère, donc qui était assez connu. Et il y a eu des courants de propriétaires. Et puis il y a eu aussi des mouvements de la gauche paysanne, on va dire, notamment la CGPT, donc la Confédération Générale des Paysans Travailleurs, qui était proche du Parti Communiste, et puis la Confédération Nationale Paysanne, qui était en gros proche du SFIO. et qui en passant a inspiré le nom de la Confédération paysanne actuelle. Voilà, donc ce qu'on peut retenir sur cette époque-là, c'est en gros qu'il n'y avait pas, déjà à l'époque, quoi qu'on en dise, il n'y avait pas d'unité paysanne et il y avait déjà des rapports de pouvoir au sein des campagnes. Voilà un peu. Du coup, on va passer à après la Seconde Guerre mondiale. Du coup, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un syndicat qui naît à la sortie de la guerre, donc la Confédération Générale de l'Agriculture, qui est un syndicat un peu unique, mais il y a une scission en son sein qui s'appelle la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, qui va rapidement devenir justement le syndicat unique et majoritaire, enfin plus que majoritaire, unique, avec en son sein une section jeune qui s'appelle le CNJA, donc le Comité National des Jeunes Agriculteurs, qui regroupe des structures donc départementales et locales. Voilà à peu près. Du coup, l'histoire des mobilisations paysannes à cette époque-là, c'est un petit peu à replacer dans le contexte des politiques agricoles et puis des transformations rurales que ça a entraîné à l'époque. Donc d'abord, il y a eu le plan Marshall, donc la reconversion de l'industrie de guerre dans le civil et notamment dans l'agriculture, avec justement une vision industrielle qui visait à aligner la ferme sur l'usine et à faire une révolution industrielle à la campagne. Donc en gros, ces transformations, elles vont entraîner, elles vont accentuer un peu, donc ces politiques-là, elles vont accentuer un peu les antagonismes qu'il peut y avoir entre les différentes classes paysannes, avec l'arrivée de la modernisation dans les campagnes, et puis donc des petites fermes qui vont devoir s'arrêter parce que elles se mécanisent pas, elles se modernisent pas, et donc elles peuvent pas tenir dans le contexte économique. Et puis des autres fermes qui vont se moderniser justement. Donc c'est la modernisation, ça va être une notion centrale dans ces années-là. Et notamment dans les années 50, au sein du Comité National des Jeunes Agriculteurs, donc dans la FNSEA, il y a une nouvelle génération un peu de paysans qui va prendre de plus en plus d'importance. Et notamment pour replacer cette importance-là dans le contexte, en fait, il y a beaucoup de paysans et paysannes ces années-là qui sont formés au sein de la JAC, donc la Jeunesse Agricole Chrétienne, qui, à cette époque, constitue un peu le réseau social important dans les campagnes, où les gens peuvent se retrouver, confronter un peu les réalités sociales des fermes, les problèmes auxquels ils font face, et puis s'auto-former, enfin prendre aussi de l'assurance pour prendre des responsabilités publiques. Et donc ça va constituer un peu une école de formation pour différentes générations de paysans, et aussi surtout pour différents courants politiques de paysans. Donc c'est au sein de la JAC, il y a une génération qui se forme dans les années 50, qui vont être pour certains justement les partisans du modernisme. Donc pour eux, en fait, ils vont réfléchir en termes de moderniser les fermes pour répondre au contexte de l'époque, pour que l'agriculture française soit compétitive, et aussi pour améliorer la qualité de vie des paysans et des populations rurales. Donc ça entraîne forcément, à la même époque, donc l'exode rural et cette modernisation, cet agrandissement, cette mécanisation des fermes, ça pouvait pas continuer avec le même nombre de paysans et de paysannes. Donc ça entraîne forcément la disparition d'exploitation. Du coup, avec cette modernisation, il y a des antagonismes qui vont vraiment s'accélérer, et notamment des courants un peu différents qui vont prendre de l'ampleur. Par exemple, en fonction des régions d'exploitation et des différentes productions, en fait. Des régions de petites fermes face à des régions de grosses exploitations qui se sont déjà modernisées avant la Seconde Guerre mondiale, des régions de montagne par rapport aux plaines céréalières, donc justement les plaines céréalières qui ont été un peu les premières à se moderniser. Et du coup, à cette époque-là, et les dirigeants on va dire de la ligne majoritaire de la FNSEA sont plutôt issus justement des plaines céréalières, en fait. Comme aussi l'est d'ailleurs le dirigeant actuel de la FNSEA, pour l'anecdote. Donc dans le même temps, voilà, il y a des antagonismes qui émergent un peu. Il y a la naissance à la fin des années 50 du MODEF, donc du mouvement de défense des exploitations familiales, qui sont déjà un peu des dissidents de ce syndicat unique qu'est la FNSEA, et qui vont se rapprocher du Parti communiste français sur des bases de défendre les petites fermes en gros. Un autre courant dissident qui émerge à cette époque-là, c'est le comité de Guéret, donc qui a marqué un peu une division vraiment spatiale, géographique en fait, des différents courants dans le syndicalisme agricole, étant donné que ça rassemblait beaucoup des éleveurs, donc des zones d'élevage notamment de montagne au sud de la Loire, en face des plaines céréalières du nord, on va dire, pour simplifier un petit peu. Et à la même époque, il y a dans l'ouest de la France, beaucoup d'actions qui commencent à se passer, enfin beaucoup de mobilisation dans une région où c'est beaucoup de petites et de moyennes fermes et où il y a une densité agricole très forte avec 25% de paysans suivant où. Et donc il y a une section locale de la FNSEA, donc qui s'appelle la FRSEAO, la Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de l'Ouest, qui devient à cette époque-là très vindicative sur la défense des droits des paysans. Et c'est là que va s'établir un peu un tournant, donc dès 1969, la FRSEAO sort un journal qui s'appelle Vent d'Ouest, et qui va commencer à porter un certain nombre d'idées dissidentes. D'idées dissidentes notamment sur l'analyse du modèle économique de l'agriculture, donc avec une critique du modèle économique agricole et des politiques agricoles, une critique assez poussée, et puis aussi une analyse des liens entre les paysans et la société qui va se transformer, et l'émergence de l'idée que parmi les paysans, il y a des exploités, et donc il y a une solidarité à avoir avec les autres exploités, notamment les travailleurs urbains et industriels. Voilà en gros, donc dans ces années-là, il y a tout ça, donc l'Ouest est un gros bastion un peu de ces idées qui émergent, mais il n'y a pas que dans l'Ouest. Il y a un congrès, donc en 1970, il y a un congrès de la FNSEA à Blois, où donc il y a un rapport d'orientation, un congrès du CNJA pardon, où il y a un rapport d'orientation avec donc un peu ces nouveaux courants et ces nouvelles idées qui émergent, et un rapport qui est présenté par Antoine Richard, donc un paysan de la Loire. Du coup je vais vous lire la conclusion de ce rapport d'orientation qui s'intitule Pour un syndicalisme de travailleurs, et ça résume, je vais vous lire des extraits, ça résume un petit peu les idées qui émergent à ce moment-là, du coup. Voilà, ça s'appelle Pour un syndicalisme de travailleurs. L'agriculture est sortie de l'autarcie. Elle est de plus en plus intégrée dans une économie d'échange techniquement développée de type industriel. Pour placer les jeunes agriculteurs dans cette économie et dans cette société, le CNJA a fait le choix de l'agriculture de groupe, industrielle et commerciale, c'est-à-dire une agriculture gérée par des agriculteurs. Donc là, il parle principalement de la coopération. En bon français, cela veut dire une agriculture de type autogéré, de type socialiste. Mais notre économie est de type libéral. Et dans notre société, celui qui est riche et fort est toujours un peu plus libre que celui qui est faible. L'agriculture de groupe industriel est commerciale. Seul secteur autogéré dans l'ensemble d'une économie de type libéral et capitaliste n'est pas viable. Nous voyons que les grandes coopératives, pour tenir, doivent avoir le même comportement vis-à-vis des producteurs que les firmes privées. L'agriculture de groupe industriel et commercial est pourtant notre seule chance, mais à condition de ne pas avoir n'importe quel comportement à l'intérieur de ce type d'agriculture. Aurons-nous un comportement de chef d'entreprise ou de travailleur? La contradiction est en chacun de nous. Le système libéral nous marque de son empreinte et nous sommes toujours tentés de faire des choix individualistes en oubliant les copains. Le chef d'entreprise, c'est celui qui a le pouvoir, c'est le patronat, Duquesne Purina ou Unilever pour l'agriculture. Donc en aparté, Duquesne Purina et Unilever, c'est des grands groupes agroalimentaires de l'époque. C'est aussi le maquignon, le spéculateur foncier. Le travailleur, c'est le jeune agriculteur qui doit payer un pas de porte pour s'installer. C'est celui qui recule devant la masse de capital à investir. C'est celui qui doit quitter l'agriculture et qui part sans formation parce qu'il répugne à apprendre, ayant été rebuté par un enseignement primaire inadapté. C'est le fermier expulsé par le propriétaire. C'est le producteur de lait qui n'aura pas l'augmentation espérée parce que sa coopérative est en concurrence avec Danone ou Unilever sur les circuits de distribution. C'est aussi l'ouvrier qui voit son usine fermée sans qu'il ait pu peser sur la décision, sans même qu'il n'ait été informé à l'avance et qu'il ait pu apprendre un autre métier. C'est le paysan ouvrier, français ou allemand, bloqué dans une situation individuelle sans issue. C'est aussi le paysan africain qui est exploité par les trusts internationaux qui fabriquent la margarine. Donc, le temps des illusions est terminé. Nous sommes des chefs d'entreprise sans pouvoir et sans grande responsabilité. Nous nous exploitons nous-mêmes. Nos intérêts sont des intérêts de travailleurs. Dans notre combat syndical, dans les SAFER, les commissions cantonales structures, les coopératives, les groupements de producteurs, doit être un combat de travailleurs. Nous refusons la compétitivité présentée comme une fin en soi et les solutions individuelles. Nous voulons la possibilité pour tous d'innover, de créer, de se réaliser dans le travail. Nous avons le sens des intérêts communs avec les travailleurs des autres secteurs et des autres pays. Nous voulons que le droit au travail soit le droit premier et fondamental de notre société. Nous voulons que la reconquête de ce droit soit l'objectif prioritaire de notre organisation syndicale jeune et qu'elle sache choisir les moyens pour y parvenir. Une société basée juridiquement sur le droit du travail, là et là seulement, est l'avenir de tous les jeunes agriculteurs. Voilà, donc c'était un extrait de Pour un syndicaliste de travailleurs, un rapport d'orientation donc, qui a été présenté par Antoine Richard donc à un congrès du CNJA en 1970 et qui marque un peu ce tournant dans les luttes paysannes avec l'émergence de ces idées de paysans en tant que, qui luttent en tant qu'exploités. Donc en 70 aussi, c'est justement cette année-là que Bernard Lambert publie Les paysans dans la lutte des classes. Et du coup, ce livre, ça va être un peu le point d'orgue de toutes ces réflexions qui commençaient à se diffuser dans les campagnes. Et ça va être un peu le livre qui va poser toutes ces nouvelles idées, en fait. Donc en gros, l'idée qu'il développe dans ce livre, c'est que la paysannerie, qui était vue jusqu'alors comme une corporation soudée derrière ses dirigeants, derrière ses grands dirigeants, qu'en fait elle-même, elle est traversée par la lutte des classes. Donc la question n'est pas de savoir si où les paysans devraient se situer dans la lutte des classes en tant que groupe uni, mais bien de reconnaître que la lutte des classes traverse l'agriculture et que une majorité des paysans, bien que propriétaires de leur outil de production, sont en condition d'exploitation, justement. Donc que ce soit par les banques, parce qu'ils sont obligés d'emprunter pour se moderniser, par les groupes agro-industriels, par les propriétaires, etc. Donc dans son analyse, il y a notamment deux catégories en fait de paysans qui sort deux catégories de paysannes et paysans qui vont faire partie de ces exploités. D'abord des paysannes et paysans paupérisés qui finalement sortent de l'agriculture en fait, donc parce que trop petits pour s'en sortir et trop petits pour se moderniser, doivent quitter l'agriculture partiellement ou totalement. Donc partiellement quand ils restent dans des zones défavorisées à encore accomplir les productions les plus ingrates en gros, et puis totalement pour aller grossir les rangs du prolétariat industriel. Donc c'est ce que lui appelle un réservoir de main d'œuvre en fait. Et puis l'autre catégorie auquel il s'intéresse plus après, c'est les paysannes et paysans prolétarisés. Donc qui eux se modernisent, mais pour arriver à se moderniser, pour rester la tête hors de l'eau entre guillemets dans ce contexte agricole et économique de l'époque, ils deviennent de plus en plus soumis dans leur travail à la domination d'autres acteurs, que ce soit donc des groupes agroalimentaires, l'exemple ça peut être des banques, etc. Et donc l'exemple le plus flagrant à cette époque-là, c'est donc le travail en intégration. Donc pour expliquer, le travail en intégration en fait c'est donc des éleveurs notamment qui endossent les charges, mais qui deviennent en gros ouvriers spécialisés à domicile, puisque c'est des groupes agro-industriels qui décident, qui leur fournissent l'aliment pour les bêtes. Donc on va prendre un exemple, des gens qui engraissent des veaux, donc ils reçoivent les veaux, ils reçoivent des rations, Et donc ils sont simplement opérateurs, mais par contre c'est eux qui endossent les charges de l'outil de production, puisque c'est leur ferme. Et du coup voilà, c'est des gens qui se retrouvent vraiment en condition d'exploitation, en condition de travail à la chaîne en gros. Et bon, bien sûr, en dehors de ces deux catégories-là, donc qui est décrit dans ce livre, il y a aussi l'émergence ou la confirmation d'une classe capitaliste dans les zones favorables, donc qui sont les dirigeants un peu de l'agriculture. Du coup, voilà, il développe un peu toutes ces idées-là, notamment aussi, on a parlé tout à l'heure de la coopération dans le rapport d'Antoine Richard. Bernard Lambert, il explique qu'à cette époque-là, justement, les coopératives font une sorte de soupape de sûreté entre le système économique capitaliste et les paysans. En étant un peu en participant aux coopératives, les paysans, finalement, font pas face directement. Il n'y a pas un rapport frontal face au système économique, mais il y a ces coopératives qui sont un peu des outils collectifs, mais quand même des outils commerciaux impliqués dans un système économique, et donc qui sont une sorte de soupape de sécurité entre les deux, un peu. Voilà, donc ça, c'est le livre de Bernard Lambert, ça a fait vraiment ça a posé un peu les choses de tous ces échanges qui émergeaient à cette époque-là. Donc on va se faire une petite pause musicale, et après, on se retrouve pour la suite de ces années-là. Vous êtes toujours sur Radio Canu, sur le 102.2. On vient de s'écouter Spies of Congress de Jack and the Bearded Fisherman. Et c'est toujours les paysans et les paysans dans la lutte des classes, l'émission sur l'agriculture et les luttes paysannes. Donc on parlait un peu de l'histoire des luttes paysannes dans les années... On en était aux années 60-70. Donc dans les années 70, suite à justement ces nouvelles idées un peu de lutte des classes qui traversent les campagnes, et puis de paysans exploités, donc en lutte pour leur émancipation, il y a des tas de luttes sur le terrain qui se mettent en place et de mobilisation sur le terrain sur différents axes. En fait, il y a des luttes pour la terre qui vont être nombreuses dans ces années-là. Donc il y a l'exemple classique, c'est le Larzac, donc la lutte du Larzac pour défendre des paysans et en installer d'autres contre l'extension d'un camp militaire. Mais à la même époque, il y a aussi plein d'actions locales ailleurs, notamment plein d'actions directes, on va dire, contre des cumulards. Donc ce qu'on appelle les cumulards, c'est des gens qui ont déjà des grosses fermes et qui récupèrent le terrain de ceux qui arrêtent à côté. Donc il y a des tas d'actions pour installer des gens ou pour défendre des petits paysans face à ces cumulards. Il y en a eu en Rhône-Alpes notamment, en Savoie, enfin il y en a eu différentes. En 72 aussi, il y a une grosse grève du lait qui est très suivie, notamment dans l'Ouest, avec voilà pareil tout un tas d'actions contre des industriels, aussi au sein des coopératives. Et puis à cette époque-là, il y a la naissance donc du comité de lutte des éleveurs intégrés. Donc on parlait tout à l'heure de l'intégration, donc c'est ça, voilà, c'est ces éleveurs intégrés qui sont vraiment en condition d'exploitation avec aucun pouvoir de décision, commencent à s'organiser pour défendre leurs droits vis-à-vis des groupes agro-industriels. Et donc tout au long de ces luttes, il y a aussi un peu des rencontres avec d'autres secteurs en lutte qui s'établissent, avec les étudiants, mais aussi avec les milieux ouvriers. Donc voilà, toujours pareil, les exemples un peu célèbres et classiques qu'on cite, c'est que à la même époque, il y a eu les LIP à Besançon, donc des ouvriers qui ont occupé leur usine et qui ont repris la production de montres, qui s'est passé à peu près en même temps que le Larzac. Mais voilà, c'était pas la seule. Il y a eu beaucoup de mouvements de grève, notamment pendant les grèves du lait, où il y a eu des rencontres avec les milieux ouvriers fréquentes, et que ce soit à des niveaux syndicaux ou à des niveaux de terrain, vraiment sur des actions. Et puis dans ces années-là, il y a eu aussi des rencontres à la campagne, en fait. Donc il y avait un peu ces paysannes et paysans qui avaient fait une analyse nouvelle et qui étaient en lutte d'émancipation contre le système agricole de cette époque-là. Et puis c'est à la même époque qu'il y a ce qu'on a appelé des néo-ruraux qui ont commencé à arriver notamment dans les zones en déprise, donc dans les zones de campagne un peu délaissées, on va dire, et qu'on a vu, pour certains et certaines, un peu suite aux luttes politiques des années 60, les moyens, en allant à la campagne, de poser les bases d'une autonomie concrète, enfin de créer des alternatives concrètes à la société industrielle et à la société capitaliste. Et donc il y a ces personnes vont se rencontrer avec voilà des gens issus du milieu paysan, des gens issus d'ailleurs. Et ça va être très présent après dans les décennies suivantes dans l'histoire des luttes paysannes. Du coup, c'est à cette époque-là, dans cette décennie 70, que va émerger un peu tout un tas d'organisations, de nouvelles. Donc il y aura un peu la structuration de tout un tas de mouvements qui va s'opposer à l'hégémonie de la FNSEA. Donc en 1974, il y a la création de l'Association nationale des paysans travailleurs. Donc les paysans travailleurs regroupent un peu ce courant de personnes qui sont mis à réfléchir justement aux conditions des paysans comme exploités. Après, il y a eu tout un tas de mouvements un peu dans cette mouvance-là. En 75, il y a le mouvement national des travailleurs agricoles et ruraux. Donc le MONATAR, qui est issu de FDSEA, exclu de la Fédération nationale, et puis de groupes locaux qui quittaient les fédérations départementales. En 77, il y a certains paysans travailleurs et le Monatar qui créent le mouvement syndical des travailleurs paysans, mais pour éviter la confusion, ça devient le mouvement syndical des travailleurs de la terre, donc le MSTT. Et puis en 81, il y a, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, il y a la reconnaissance de la pluralité syndicale en agriculture. Et donc les paysans travailleurs et le MSTT et d'autres groupes et syndicats autonomes créent la coordination nationale des syndicats de travailleurs paysans. Et juste après, en 82, il y a d'autres FDSEA exclus ou dissidentes, et puis des comités départementaux de jeunes agriculteurs en dissidence avec le national, on va dire, et puis avec le FDSEA local aussi. Ils vont créer la Fédération nationale des syndicats paysans, donc la FNSP. Et en fait, la CNSTP et la FNSP, c'est ces deux tendances qui vont créer en 87 la Confédération paysanne. Mais donc, on aura l'occasion d'en reparler. C'était un peu, voilà, là aujourd'hui, c'était pour poser un peu l'émergence de ces idées-là, en tout cas, et de ces courants-là. Et puis, ben, pour résumer, ce sera mieux expliqué par quelqu'un qui l'a vécu. Donc, on va écouter un entretien avec Michel, donc qui est paysan en Basse-Navarre, au Pays Basque, et donc qui explique un petit peu. C'est un entretien qui a été réalisé en mars 2011, et donc il explique un petit peu son parcours dans ces années-là.
Il y a eu depuis un changement ici assez important qui a démarré. Ça doit faire maintenant 35 ans. Au niveau du monde agricole, et c'est un peu suite avec un petit temps de décalage, mais c'est pas spécifique à chez nous, c'est dans toute la France, c'était un peu comme ça. Après mai 68, il y a eu l'onde de choc au niveau paysan qui a suscité des mouvements syndicaux, des mouvements d'organisation divers au niveau du monde paysan sur des bases nouvelles, sur des analyses nouvelles, et qui étaient en rupture avec le panorama qu'il y avait avant au niveau agricole, où c'était un secteur très très disons qu'on pouvait classer de conservateur, assez avec un schéma d'organisation un peu immuable depuis le 19e siècle voire avant. Contrôlé par des notables, des propriétaires terriens, et avec une politique agricole qui favorisait essentiellement la grosse exploitation céréalière, pour faire court. Voilà. Et il y a eu, à partir de 68, une analyse nouvelle qui peut se résumer en gros sur l'idée que le monde agricole, le secteur agricole était conditionné aussi par un système économique, et qu'il y avait un système économique qui n'était pas neutre, et que cette organisation de l'économie au niveau agricole, il avait des conséquences, positives ou négatives selon la catégorie des paysans, mais que ce système économique était pas neutre, quoi. Et donc que s'il fallait améliorer le sort des paysans, qu'il fallait aussi changer le système économique. Voilà, c'est un peu ça, pour faire court, l'idée sous-jacente. La deuxième idée forte, ça a été par rapport à l'analyse du paysan lui-même, au-delà du système, enfin c'est lié au système aussi, mais c'est jusqu'alors, il y avait une seule conception du paysan qui était considéré comme un chef d'entreprise. Le paysan est un chef d'entreprise, et s'il se démerde bien, il va s'en sortir. S'il se démerde pas bien, eh bien il va être exclu. Et finalement, c'est logique, c'est la loi de la nature. Les meilleurs s'en sortent et les autres ne s'en sortent pas, et ça se passe toujours partout comme ça. Et donc,
c'est la loi du libéralisme.
Voilà, oui. Mais voilà, c'était ça la conception, non seulement dominante, c'est encore peut-être une conception dominante aujourd'hui, mais c'était presque une analyse unique qui s'imposait à tout le monde, quoi. Et donc, dans la foulée de cette nouvelle analyse là, dont je parlais tout à l'heure avec la conscience qu'il y avait un système économique qui n'était pas neutre, etc., il y a eu aussi une définition différente du paysan qui a été élaborée un peu, qui a été pensée par une nouvelle génération de paysans. C'était que le paysan ressemblait beaucoup plus à un travailleur qu'à un chef d'entreprise. Et c'est de là d'ailleurs qu'est né un courant qui s'appelait à l'époque paysan-travailleur. Alors c'était un peu particulier dans la mesure où on disait à l'époque le paysan, il a un statut en quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés, dans la mesure où ce n'est pas lui qui décide, il est dépendant de l'agroalimentaire, des banques, des politiques agricoles qui décident non seulement du revenu, mais souvent des conditions de production, etc. Des conditions de travail aussi, par conséquent. Voilà, donc c'était cette conscience que le paysan était soumis à un système économique et qu'il était plutôt dans la catégorie des travailleurs, ce qui veut dire que pour qu'il s'en sorte, il ne suffit pas simplement d'être compétent, mais il faut aussi se battre pour avoir des droits sociaux, des droits à produire, des droits économiques, etc. Voilà. Donc ça, c'est l'origine. Comment ça s'est passé chez nous, au Pays Basque? Cette nouvelle analyse a été partagée par des générations de jeunes paysans, dont j'étais. Il y avait en gros ma génération, et puis une génération de militants qui nous a précédés. En gros, on peut dire qu'il y a une génération tous les 5 ans, quoi, en gros. Enfin, en gros, je ne sais pas comment se font les tranches d'âge, mais à l'époque, en tout cas, en gros, tous les 4-5 ans, il y avait une équipe un peu nouvelle qui émergeait, qui sortait beaucoup par une école militante qui était la JAC, la Jeunesse Agricole Chrétienne. Ça a joué un rôle très très important, même ici, mais dans toute la France aussi. Ça a été un peu une école de formation, une école de la vie, qui a impliqué beaucoup les jeunes. Le mot d'ordre de la JAC, c'était voir, juger, agir. Voir, juger, agir, donc voilà, c'est la boucle complète. Ça a d'ailleurs donné des dirigeants agricoles de toute opinion. Il y a des gens qui sont sortis de la GAC, qui sont devenus présidents de la FNSEA ou cadres de la FNSEA, et d'autres qui ont été les leaders nationaux du mouvement paysan-travailleur, et puis de la Confédération paysanne plus tard. Voilà. Bon. Voilà, mais quand même, ça a été un mouvement qui a fait beaucoup bouger les choses, les pensées, les actions, les organisations des paysans, etc. Bon. Et donc, nous, on est passé par cette voie-là. On a eu connaissance très tôt de un petit peu des analyses nouvelles qui s'élaboraient au niveau des courants paysans-travailleurs, le contestataire à la FNSEA, qui était d'abord des contestations internes à la FNSEA. Je rappelle qu'à l'époque, la FNSEA était le syndicat unique de l'agriculture, c'était la partie unique de l'agriculture. Le pluralisme est arrivé à partir de 81.
Là, on est encore dans les années 70.
Voilà, on est dans les années 70, ouais. Voilà, ça c'est les années 70. Et donc, on arrive deuxième partie des années 70, vers la fin des années 70, donc on est très très imprégné par ce courant d'opinion qui sera aussi un courant syndical, paysan-travailleur. Il y avait un mouvement, enfin une revue qui s'appelait Paysan Lutte, etc. Lutte de classe, enfin bon, voilà, c'était une analyse bien, bien claire. Et nous, on a été imprégné par ces idées-là. Et dans un premier temps, alors qu'on a eu le débat et que certains d'entre nous plaidaient pour sortir de suite de la FNSEA et créer un nouveau syndicat, un syndicat de paysans travailleurs, comme dans beaucoup d'autres départements. Nous, on a décidé de ne pas quitter la FNSEA parce que tous les paysans étaient là et pour ne pas être en rupture trop importante et de ne pas se retrouver dans une espèce de ghetto à part du monde paysan. Donc, on voulait agir un peu par immersion dans le monde paysan. Donc, on est rentré à la FNSEA, on a pris des responsabilités, on a développé nos propres analyses, qui étaient donc très influencées par ces nouvelles analyses nationales, le paysan travailleur, etc. Et on a développé ces analyses, on a développé des actions syndicales, et ce qui devait arriver arriva, la FNSEA, le pouvoir départemental, la structure départementale, a condamné nos analyses, à condamner nos actions et à considérer qu'on n'était pas dans la ligne. Et donc à partir de ce moment-là, nous, on a décidé, et bien voilà, en quelque sorte, l'objectif est atteint. On a démontré par l'intérieur, par un travail à l'intérieur, que cette structure ne correspondait pas à l'agriculture du Pays Basque, ne correspondait pas au projet que l'on présentait pour le Pays Basque et aux idées que l'on avait. Donc, on a décidé de quitter.
Juste vous à l'époque, en fait, c'est qui, c'est des gens que vous connaissiez.
Voilà. Oui, c'est des gens. Donc, ce que je disais là, il y avait, il y avait notre génération qui était passée par la JAC et on était une dizaine, disons, dans notre génération, 10-12. Voire un peu plus, mais bon, les plus engagés, disons, une bonne dizaine. Et puis, il y avait une génération qui nous précédait, avec laquelle on a travaillé, on était ensemble, quoi. Et eux avaient vécu mai 68 beaucoup plus directement, représentaient aussi, eux, une bonne dizaine, quoi. Donc, au total, on était 20 à 30 jeunes paysans, quand même, à faire ensemble ces choix-là, de rester à la FNSEA, puis quand on a décidé de quitter, la FNSEA. Et quand on a décidé de quitter la FNSEA, on a décidé de quitter ça en 82, en octobre 82. Voilà. Donc on arrive dans les années 80. On crée ici un syndicat qui s'appelle ELB, qui est ELB, c'est des initiales de Escola Agricola Volari en Batasuna, ça veut dire un peu rassemblement ou union des paysans du Pays Basque. Voilà. Et donc c'est un syndicat que l'on crée au niveau du Pays Basque, un Pays Basque qui n'existe pas au niveau département, enfin au niveau institutionnel, le Pays Basque n'est qu'un bout de département. Bon. On décide quand même de créer ce syndicat, c'est un choix, hein, c'est un choix politique, de créer sur un territoire qui s'appelle le Pays Basque, qui n'a pas de cadre institutionnel, mais d'adhérer quand même, de ne pas faire en sorte que le monde s'arrête à nos frontières. Hein, on est du Pays Basque, mais on est du monde aussi. Il y a une dimension universelle aussi, et donc on décide d'adhérer. À l'époque, c'était le Syndicat national des paysans travailleurs, et en 87, ça sera la Confédération paysanne. Voilà.
Abiletaso egin esan nigde ne sageri. Neškatuak berala ikusi zien bezala irurdozena bazabiltzala porta batetik bestera.
Vous êtes toujours sur Radio Canu sur le 102.2. C'est les paysannes et paysans dans la lutte des classes. Donc on a écouté un entretien avec Michel, paysan au Pays Basque. Et juste là maintenant, c'était un morceau de Mickaël Laboa, extrait de l'album Batirou, mais j'ai pas retrouvé le titre. Voilà. Du coup, avant de finir l'émission, on va donner un peu quelques références si vous voulez lire des choses ou voir des choses sur le sujet. Donc sur des mobilisations paysannes et rurales un peu à toutes les époques, il y a un bouquin qui s'appelle « Sociabilité et politique en milieu rural » qui a été dirigé par Annie Antoine et Juliane Michy aux Presses universitaires de Rennes en 2008. Sur notamment avant la Seconde Guerre mondiale et jusqu'au comité de Guéret, il y a « Les paysans français contre l'agrarisme » de Philippe Graton aux éditions Maspero qui est sorti en 1972. Sur l'époque des années 50, il y a un dirigeant du CNJA qui a écrit un livre dans les années 50 qui s'appelle « La révolution silencieuse, le combat des paysans ». Donc c'est de Michel de Baptiste, j'ai pas les autres références. Sur cette époque de modernisation, il y a un bouquin d'Henri Mandras qui s'appelle « La fin des paysans » qui explique un peu ça, la disparition de paysans avec la modernisation. Sur l'histoire de la nouvelle gauche paysanne, justement, un bouquin qui s'appelle comme ça, « Histoire de la nouvelle gauche paysanne » de Jean-Philippe Martin. Donc c'est des années 60 jusqu'à la conf, c'est à la découverte et c'est paru en 2005. Sinon, ensuite, il y a « Les paysans dans la lutte des classes » de Bernard Lambert, donc qui date de 1970 et il y a eu une réédition au Centre d'histoire du travail de Nantes en 2003. Ensuite, il y a un petit bouquin qui parle un peu de cet historique qui s'appelle « Qu'est-ce que la Confédération paysanne ?» aux éditions de l'Archipel en 2005. Donc c'est une petite collection sur tous les syndicats, mais vraiment tous. Sinon, des films, il y a « Paysans et rebelles », un portrait de Bernard Lambert, qui est un film de Christian Rouault. Donc Christian Rouault, c'est lui aussi qui a fait « L'IP, l'imagination au pouvoir ». donc sur l'occupation d'usine des Lippes. Et puis c'est lui aussi qui a réalisé Tous au Larzac, donc un film avec des personnes qui ont vécu la lutte du Larzac dans les années 70 et qui sort en salle le 23 novembre prochain. Voilà, voilà, je crois que j'ai rien oublié. Enfin, il y a d'autres choses, mais c'est pas exhaustif, mais voilà. On va passer à l'agenda. Donc, pour l'agenda, on rappelle dès demain soir à Kraken, dans le Trièves, c'est la seconde assemblée francophone de Reclaim the Field. Donc, il y a un réseau de jeunes européens, paysans, paysannes, sans terre, en devenir. Tout le week-end jusqu'à mardi, il y a des débats, des ateliers, il y aura un concert samedi soir. C'est peut-être un peu tard pour s'inscrire, mais vous pouvez toujours aller voir sur reclaimthefield.org. Il y a un contact pour s'inscrire, donc voilà, si jamais, n'hésitez pas. Ensuite, du 1er au 4 novembre, il y a le contre-sommet du G20 à Nice, à l'appel de plein d'organisations. Voilà. Sinon, un peu des nouvelles de Notre-Dame-des-Landes. Donc il y a une manif tracto-vélo, donc en tracteur et en vélo, qui part de Notre-Dame-des-Landes le 6 novembre et qui a prévu d'arriver à Paris le 12 novembre. Voilà, et puis on peut rappeler aussi pour Notre-Dame-des-Landes qu'en cas d'expulsion, il y a une manif de réoccupation le 4e samedi qui suit l'expulsion. Manif de réoccupation avec planchettes, clous et outils en main. Voilà. Ensuite, toujours sur la baille, il y a un rapport qui vient de sortir et qui confirme que l'enquête publique qui certifie l'intérêt de cet aéroport était vraiment complètement bidonnée. Donc peut-être on aura plus d'infos plus tard, mais voilà, ça vient de sortir. Sinon, toujours dans l'agenda, à Lyon, les 11, 12 et 13 novembre, il y a un colloque organisé par la revue La Ligne d'Horizon, qui s'appelle Sortir de l'industrialisme, avec notamment un atelier autour de l'industrialisme dans l'agriculture. Et comme participante, il y a Jocelyne Porcher, donc qui est chercheure et ancienne paysanne, qui a travaillé sur beaucoup sur les relations entre paysans et animaux dans l'élevage. Et il y a aussi Geneviève Savigny, donc qui est paysanne, membre de la Confédération paysanne et de la Via Campesina. Donc ça se passera à la Maison des Associations, dans le 1er ou 4e arrondissement, quelque chose comme ça. D'autres dates agenda, fin novembre au Mali, du coup il y a un forum contre l'accaparement des terres. On aura l'occasion d'en reparler sûrement après ce forum, avec une paysanne qui sera sur place et qui nous racontera. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, pour l'agenda. Sinon, quelques petites infos. Ça y est, donc il y a un blog de l'émission où vous pourrez écouter, vous pouvez pas tout de suite, mais vous pourrez écouter les anciennes émissions. C'est sur blog.radio, donc l'adresse c'est blog au pluriel .radiocanu.org / lutte paysanne tout attaché au pluriel. Voilà, et sinon, si vous vous souvenez pas, vous allez sur blog.radiocanu.org et il y a la liste de tous les blogs de toutes les émissions. Donc, il sera rempli dans les jours à venir. Et il y aura bientôt une liste d'infos aussi, mais elle n'est pas encore faite non plus. Donc, d'ici là, si vous avez des remarques, des questions, des propositions, vous pouvez contacter sur Lutte Paysanne, donc Lutte au pluriel, Paysanne au pluriel, tout attaché. @riseup.net. Voilà, du coup on n'a plus qu'à se quitter et on se retrouve dans 2 semaines. La semaine prochaine à la même heure, c'est Grain de Sable, donc l'émission d'actualité politique, et tout de suite après le générique, ce sera le Canu Info. Et bonne soirée sur Radio Canu et à bientôt.
Le paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, à la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production. Mais il a
d'une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout ça parce qu'on défend l'agriculture de type capitaliste et nous, on nous laisse inappropriés.
D'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Des gens qui se déclarent paysans.